Franck Duménil, bonjour.
Bonjour.
Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un thème qui est la bouteille biosourcée va-t-elle détrôner le PET ? Bon, PET c'est poly...
Éthylène terephthalate.
Voilà, tout à fait. Donc un nom compliqué, c'est pour ça qu'on dit PET.
Voilà, tout à fait.
Voilà, néanmoins un nom compliqué, une matière quand même bien connue, très populaire on va dire.
Alors c'est une matière bien connue et très populaire parce que c'est les bouteilles plastiques dans lesquelles notamment on met diverses boissons. Donc je ne vais pas les citer pour ne pas faire de publicité, mais il y en a quelques-unes. Cette matière PET contient donc, comme son nom l'indique, du PET, qui est une matière plastique, mais aussi divers additifs.
Alors, puisque vous disiez qu'il y a des marques ou des produits qui... exploitent, qui utilisent ces matières-là, ces bouteilles-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui utilisent d'autres matières ?
Alors pour les bouteilles, on peut utiliser le verre aussi. Donc dans certains produits alimentaires, c'est pas très développé en France. Par exemple, pour l'eau, on a des bouteilles en plastique, ce qui n'est pas forcément le cas en Allemagne, par exemple.
Mmh. On pourrait un jour parler aussi des sacs en plastique qui sont condamnés à disparaître, paraît-il.
Oui, normalement en juillet, si la loi de Madame Royal n'est pas reportée, ça a été reporté plusieurs fois.
Oui, oui, tout à fait. Donc là, on va parler de solutions alternatives peut-être, hein, puisque la bouteille biosourcée, on en parle, ça a même été présenté. Hein. Après, bon, voir si ça va se développer, c'est tout l'enjeu de cette émission d'aujourd'hui. Donc, vous êtes sur Campus 106,6 FM. Franck Duménil, l'industrie chimique, et notamment celle qui gravite autour du pétrole, a envahi notre espace de beaucoup d'objets, parfois encombrants, et parfois qui resteront sur le sol avant de se dégrader, qui vont quand même causer quelques problèmes, on commence à s'en rendre compte. Et donc une alternative pourrait exister, ce serait des produits qui seraient biologiques, donc qui seraient créés non pas à partir de l'énergie fossile, qui est peut-être aussi d'ailleurs un peu biologique quelque part,
tout à fait.
Mais avec d'autres matériaux ou d'autres matières qui se dégraderaient plus facilement et retrouveraient un cycle naturel.
Dans le meilleur des cas, effectivement, on peut imaginer des nouvelles matières plastiques qui se dégraderaient facilement. C'est un peu le mot « facilement » qui est le problème, à savoir à quelle échéance on programme la dégradation. Il ne s'agit pas d'avoir une bouteille qui contient un soda qui se dégrade au bout d'un an, elle ne va pas rester dans le supermarché. Donc là, il y a une notion importante de compromis.
Alors c'est vrai, quand on parle de bouteilles, on parle parfois de bouteilles à la mer et la mer s'encombre énormément. Certaines zones de la mer, pas forcément celles de nos côtes françaises, mais d'objets problématiques.
Tout à fait, on a des zones maritimes qui ont été identifiées relativement récemment, ou en tout cas qui ont été médiatisées relativement récemment, où on a une accumulation de déchets plastiques, microplastiques assez phénoménale. Et pour nettoyer tout ça, ça va prendre vraiment beaucoup de temps si c'est vraiment nettoyable. Ça se dégradera un jour, mais on sera tous morts avant que ça soit dégradé. Hein. C'est pour les générations futures.
C'est vrai que cette dégradation, elle se fait en partie par les animaux qui les ingèrent.
Oui, donc les animaux les ingèrent et on ingère les animaux. Il ne faut pas l'oublier.
Donc la chaîne est effectivement...
est bouclée.
Bouclée. Hein. Donc il y a quand même une certaine urgence. Est-ce qu'on peut dire que cette urgence de bon sens est freinée et par qui elle le serait ?
Je pense pas que cette urgence soit freinée. Par contre, on pourrait accélérer le développement. Je pense pas que ce soit réellement freiné parce que tout le monde cherche des solutions à ce problème qui devient de plus en plus important et qui touche tout le monde. Et les entreprises aussi qui se sont développées sur la pétro sont en recherche d'alternatives. Un jour, il y aura plus de pétrole, même si c'est... Bon, il va en rester quand même un certain nombre d'années On dit plus de 40 ans, mais ça risque d'être un peu plus. Mais la manière d'accélérer les choses, ça serait plutôt du côté des lois. Parce que faire du plastique biosourcé, bien souvent, ça coûte relativement cher et donc c'est pas concurrentiel. Si une loi, par exemple, obligeait à mettre 20, 30, 40% ou quelque chose de progressif dans le temps du biosourcé dans les plastiques, là, ça serait grandement accéléré.
Ça s'est un peu fait avec les carburants.
Ça s'est fait exactement avec les carburants. Il faut savoir que la production de biocarburants, c'est pas quelque chose de rentable et que c'est compensé par des subventions. L'Europe a récemment revu à la baisse les teneurs programmées en biocarburants dans l'avenir, sans doute parce qu'on est dans une crise économique et que les États n'auraient pas pu supporter ces subventions. Donc on a un petit problème là aussi.
Il y a à la fois, bien sûr, cette crise économique hein, qui touche quand même pas mal de pays, même les plus émergents, sinon émergés. Il y a aussi le fait qu'on assiste à une baisse des cours du pétrole et qui donc rend moins motivante la recherche dans ce domaine ou du moins de trouver des solutions rapidement. Est-ce que à chaque fois que le pétrole baisse, la recherche ne bénéficie pas des mêmes apports financiers pour qu'elle puisse se réaliser dans de bonnes conditions?
Alors, je nuancerai un petit peu votre affirmation. En fait, c'est vrai que quand le pétrole baisse, et là, il y a un niveau exceptionnellement bas, on a tendance à dire que toutes les technologies biosourcées à partir des bioressources sont moins rentables. C'est vrai jusqu'à un certain point, parce que si on regarde le prix de la matière première, donc la biomasse, les végétaux, il est souvent en parallèle, hein, il fluctue en parallèle avec le pétrole, parce que c'est tellement intriqué tous ces systèmes, que quand le pétrole est cher, la biomasse est plus chère aussi. Donc le point d'équilibre est pas évident à trouver.
Alors c'est vrai qu'on peut rajouter à ces coûts à la société, ou au moins aussi aux personnes qui vivent dans nos pays, par exemple, ce que les habitants payent en termes de taxes pour compenser ce qui est déversé régulièrement dans les poubelles et qui doit quand même être traité à un moment donné.
Effectivement, ça aussi c'est un point très important et je crois, hein, je ne suis pas spécialiste du domaine, qu'on s'achemine en France vers une multiplication du nombre de poubelles, très lentement. Dans certains pays, c'est réalisé, ils peuvent avoir jusque 5, voire 10 poubelles différentes. Donc il y a un coût, certes, que le citoyen va devoir prendre en partie en charge, mais les bénéfices par la suite sont sans doute plus importants que le prix à payer au départ. C'est ce changement de mentalité qu'il faut adopter. Chacun doit faire des efforts, y compris des efforts financiers. C'est pas possible autrement. Je pense pas qu'on ait de solution sans efforts financiers de toutes les parties en présence.
Alors, moi qui ai connu cette époque où la pollution n'était pas ce qu'elle était, notamment en termes de déchets qui étaient beaucoup moins nombreux, puisque en gros on avait un tas de fumier, on mettait un peu ce qui sortait de la maison dessus, il n'y avait pas tant de choses que ça. Pendant des années, on a été conditionné à produire des choses parfois souvent inutiles qui se cumulent, enfin voilà, et qui sont maintenant un réel problème. Donc est-ce qu'on peut imaginer que des campagne, on va dire, d'information, puisqu'on a été conditionné à consommer, on pourrait imaginer aussi des campagnes qui redonnent un peu de bon sens aux choses et régulent d'une certaine manière la consommation qu'on fait de certains produits qui ont été vantés, favorisés pour des raisons économiques hein, et qui maintenant auraient besoin d'être un peu supprimés de la carte.
De manière très générale, on a été conditionné pour consommer plus dans pratiquement tous les secteurs d'activité, si ce n'est tous les secteurs d'activité. J'ai pas de contre-exemple actuellement. Un exemple tout bête que j'aime bien raconter à mes étudiants, c'est les yaourts. Hein. On va prendre, c'est le pot de yaourt avec le yaourt à l'intérieur. Il y a des dates de péremption qui sont très courtes. Ben, le consommateur, il voit que la date est passée, il le jette, il en rachète un autre. Alors qu'en réalité, votre yaourt, vous pouvez le garder un mois, voire plus, il va encore être bon. Ensuite, souvent, quand on achète un objet complet qui est constitué de plusieurs parties, par exemple, prenons une cafetière, quand vous avez une partie de la cafetière qui est défectueuse, souvent, ça coûte plus cher de l'échanger que de racheter une nouvelle cafetière. Il y a quand même des solutions. Hein, aussi l'obsolescence programmée, justement, il y a une solution, c'est que le vendeur d'un objet ne vendrait plus l'objet, mais vendrait la propriété. C'est-à-dire que le client, par exemple, jouirait de 10 000, pour une voiture, de 10 000 km par an. Voilà, le vendeur aurait vendu 10 000 km par an, donc il n'aurait pas intérêt à ce que cette voiture tombe en panne. Donc il y a effectivement, on a été conditionné selon certains modes d'achat, selon certains modes économiques jusqu'à présent, mais on peut renverser la tendance par 1, de l'éducation, et 2, des solutions intelligentes comme cette vente d'usage et non pas d'objet.
Alors c'est vrai que l'obsolescence programmée, c'est quelque chose qui commence, on va dire, pas à être régulé forcément, mais à être pris en compte, puisqu'il y a des règlements qui commencent à se mettre en place. Il y a encore des objets qui ont été construits il y a 10 ans, 20 ans, et qui sont systématiquement, au bout d'un certain nombre d'heures d'utilisation, à mettre à la poubelle, puisque pas réparables. Et voilà. Nous, par exemple, à Radio Campus, on a des écrans d'ordinateur. Ces écrans-là, visiblement, ils sont programmés pour, au bout d'un certain temps, vraiment ne plus fonctionner. On ne peut pas les réparer du tout. Et là, on est vraiment dans une certaine forme d'aberration, puisque tous ces écrans et ces objets, etc., ont eux-mêmes des composants qui sont peut-être pire encore que le plastique, qu'il faudra bien recycler d'une certaine manière. Et des pays s'emparent de ce recyclage. Je ne voudrais pas donner un pays particulier, je pense en particulier. Mais voilà. Et donc, ces populations qui retraitent ces produits sont elles-mêmes en danger par rapport à ces produits. Et nous, on se débarrasse de tout ça avec une certaine bonne confiance ou une certaine indulgence pour des industriels qui, eux, vivent grassement de ces effets négatifs de produits qui, au départ, sont faits pour aider les gens.
Bon, effectivement, on est dans un système globalisé qui n'a peut-être pas été installé dès le départ comme il est actuellement structuré, mais qui s'est structuré au fur et à mesure. Et des acteurs divers ont tiré parti, finalement, un peu du malheur des autres, hein, quelque part, hein, c'est ce que vous mentionnez, pour pouvoir générer des profits. Mais je ne pense pas que tout le système était imaginé ex nihilo dès le départ et que ça s'est un peu envenimé au fur et à mesure.
Voilà. Donc pour vous, et c'est l'objet aussi de votre venue, il n'y aurait pas de point de non-retour, mais des progrès qu'on pourrait réaliser à partir de maintenant.
Il n'y a pas de point de non-retour actuellement, et je pense que c'est quelque chose qui est très humain. J'aime bien parler de mes cours, hein, ça va être la deuxième fois aujourd'hui.
On n'a pas la chance d'y assister,
mais je vous en prie, vous êtes bienvenue.
Notre auditoire, oui.
Donc, ce que je dis aussi à mes étudiants, c'est pourquoi tout d'un coup on développe les technologies issues de la biomasse, alors qu'on sait quand même depuis un moment que les ressources en énergie fossile ou en composés fossiles sont limitées. On est dans un monde limité, il n'y a pas une infinité. Ben, c'est comme les étudiants, ils savent très bien qu'ils vont avoir un examen à la fin de l'année, ils commencent à réviser 15 jours avant à l'extrême limite pour être sûr d'avoir l'examen. On est dans le même état d'esprit, on est humain. Donc c'est pas étonnant, ça pourrait être mieux, mais c'est pas très grave parce que je suis très optimiste, je pense qu'on va s'en sortir.
Voilà, donc en fait, être humain pour vous, ce n'est pas être rationnel. Donc, qui peut rendre les choses rationnelles ?
Qui peut rendre les choses rationnelles ? Ben, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il y a besoin de rendre les choses rationnelles ?
Ben, rationnelles peut-être pas, mais vivables, oui.
Oui, donc justement, je pense que ça va être vivable. Et je rebondis sur une question que vous m'avez posée tout à l'heure concernant le prix du pétrole qui était très bas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on a des subventions ? En recherche, même si je n'aime pas les opposés, mais je veux dire qu'il y a quand même deux grandes catégories de recherche. Il y a la recherche académique, qui n'est pas incompatible avec la deuxième catégorie de recherche, qui est la recherche industrielle. La recherche industrielle a cette différence fondamentale avec la recherche académique, c'est qu'elle n'a pas les mêmes échelles temporelles en général. Je ne veux pas complètement généraliser et dire que c'est 100% comme ça, mais en général, c'est pour mettre un produit sur le marché à court terme, parce qu'il y a des investisseurs derrière qui ont besoin de retour sur profit. On ne va pas dire, dans 10 ans, vous aurez un retour sur investissement. Ça va pas intéresser les actionnaires d'avoir de l'argent dans 10 ans. Donc l'académique, lui, quel que soit le prix du pétrole, quelles que soient les considérations externes, va continuer à travailler sur ces sujets et va générer un flot, un socle de connaissances dans lesquelles il pourra ensuite piocher le jour où le problème industriel va se déclencher. Et je pense que là, il y a une grande synergie, et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Effectivement, les ressources fossiles sont très peu chères. Alors, on ne va pas parler du gaz de schiste, mais on pourrait aussi inclure ça dans la balance. Hein, c'est une ressource fossile. Et les académiques continuent à travailler sur les sujets d'intérêt à plus long terme. Et un jour, Ça va ressortir forcément, on sera prêt.
Alors, les étudiants de l'Académie EJ qui font une émission ici tous les matins sur Radio Campus à 7h, hein, oui, ont traité d'un thème la semaine dernière, c'était les chercheurs cherchent ce qu'ils trouvent, etc. Et dans ce thème-là, il y avait également la répartition des financements entre la recherche universitaire et la recherche appliquée privée et des industriels. En gros, il disait que la recherche fondamentale, c'était en gros moins de 15% d'un budget, par exemple, et le reste de la recherche, celle qui débouche sur des choses finançables, vendables, économiques, c'est 85%. Est-ce qu'on en est là ou est-ce que ça peut évoluer? Qu'est-ce que vous pensez de la situation?
Alors, j'avoue que je ne connais pas les statistiques et les chiffres. Je peux regarder ce qui se passe dans ma propre équipe. Alors, on a quand même eu dans mon équipe d'énormes contrats très amont, très, très fondamentaux, comme l'équipe X-Ril 4. C'est à peu près 10 millions d'euros que nous avons reçus il y a 2 ans. Donc, ça fausse un peu la donne parce que c'est un élément exceptionnel. Mais si je retire cet élément exceptionnel, je dirais qu'on est à 95% à peu près de financement industriel et de 5% de financement où on a le droit de jouer, de faire le savant fou avec. Par contre, dans les financements industriels, il est quand même relativement rare que les industriels nous empêchent de faire un peu les foufous avec une partie du financement. Donc c'est compensé par la volonté de l'académique d'aller creuser des choses qui sont pas forcément nécessaires à court terme, mais qui pourraient avoir un intérêt, et en général c'est pas empêché. Donc il y a quand même une zone de liberté assez appréciable.
Est-ce que la situation en France par rapport à d'autres pays est plutôt bonne ou plutôt moins bonne? Est-ce qu'elle régresse ou est-ce qu'elle progresse?
Du point de vue du financement de la recherche, je pense que la situation en France est excellente au niveau global. Mm-hmm. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a jamais eu autant de financement. Alors ça s'appelle les programmes d'investissement d'avenir. C'est des sommes considérables. Par contre, la philosophie de distribution a grandement évolué par rapport à ce qu'on avait avant. Avant, on distribuait peu, mais à tout le monde. Maintenant, on distribue beaucoup, mais à des endroits ciblés. C'est
voilà,
la grosse différence.
C'est le financement fléché.
Voilà.
Qu'on met en valeur, alors, en avant, dans les motifs de financement, dans les justifications de ces financements?
Encore une fois, je ne veux pas faire de généralité. Non. J'ai aussi ma propre opinion. On est dans une période de crise. Et dans une période de crise, on cherche les solutions à plus court terme. Donc il me semble que les financements qui ciblent la recherche qui va être plus applicative sont plus faciles à obtenir. Et si on regarde l'Europe, hein, l'Europe avait des programmes cadres. Alors le FP7, ça porte ses noms un petit peu barbares, qui avait avant lui le FP6, très logique. Donc le FP6, c'était assez fondamental, les financements. Le FP7, on est un peu plus sur la démonstration, c'est-à-dire cette limite entre l'académique et l'industriel. Et maintenant, on est dans la suite, qui n'est pas le FP8, mais Horizon 2020, qui a glissé grandement vers les technologies très appliquées. Et on dit que le suivant serait encore plus vers l'appliqué. Je pense qu'à bout d'un moment, il faut s'arrêter et être raisonnable et garder un socle de science qui n'a pas forcément d'application directe. Et garder aussi l'appliqué qui est très intéressant parce que c'est là d'où viennent les revenus. Donc il faut faire attention à ce glissement, je pense.
Donc on va en revenir, professeur Franck Duménil, à cette histoire de bouteilles plastiques pour faire comprendre aux gens que tout n'est pas aussi simple que ça.
C'est très compliqué.
Et que quand on a une société qui fonctionne avec tous ses défauts, remplacer un système par un autre, ça pose aussi d'autres problèmes. J'ai été assez étonné par l'information que j'ai reprise sur vos informations sur votre site. Hein. Et j'ai vu par exemple que mettre une nouvelle forme de plastique sur le marché, ça veut dire que tout ce qui était à recycler avec une certaine méthodologie risquait d'être compromis en termes de recyclage parce qu'une nouvelle matière introduite dans ces recyclages, eh bien forcément modifier la composition globale de ce qu'il y avait recyclé et donc risquer de poser de graves problèmes. Alors les normes de la... Voilà, on est dans l'histoire des normes.
C'est les normes et puis c'est terrible ce problème parce que c'est c'est très vertueux. Il y a des études qui montrent qu'on pourrait remplacer le PET par un autre polymère qui est intrinsèquement très vertueux. Ça vient de la biomasse. On a fait le bilan CO2. On a fait ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie qui montre qu'on fait pas pire que mieux. On prend tous les paramètres, la consommation en eau pour l'obtenir, l'effet sur les écosystèmes, l'effet sur l'être humain. Et donc, c'est très vertueux. Par contre, et c'est ce que vous soulignez, c'est que quand ce plastique va se retrouver à la poubelle, il va se retrouver avec d'autres plastiques en mélange, puisqu'on a une poubelle pour les plastiques, et les unités de retraitement des plastiques n'ont rien de prévu pour le tri et la manière dont il doit être recyclé et recyclé avec les autres plastiques. Est-ce qu'on va le fondre ensemble? Est-ce qu'il y a la même température de fusion? Est-ce que le plastique va avoir la même propriété? Et là, on se retrouve devant un problème qui, finalement, quand je le dis comme ça, bah oui, on devait s'y attendre. Mais non, les gens, quand ils ont développé leur plastique, ils n'ont pas pensé à cette filière de recyclage. Donc on est devant de nouveaux problèmes. Alors il faut peut-être de nouvelles régulations, ou alors il faut imposer que tout soit en nouveau plastique. Là, il n'y aurait plus de problème puisque la filière de recyclage serait unique. Bon, la loi de la concurrence fait que ça sera pas possible. Chaque acteur a le droit d'exister. Et donc là, on se retrouve devant un problème qui n'a pas été résolu pour le moment.
Alors c'est vrai qu'il y a des accords internationaux qui se développent et certains critiquent d'ailleurs le fait que tout puisse être vendu au nom de la liberté planétaire, etc. Est-ce que justement là aussi on n'a pas en tant que citoyen justement le risque que notre parole ne compte plus du tout? Parce que autant il y a des pays qui peuvent encore en tant que citoyen se révolter, se positionner, que dans un monde globalisé la réaction individuelle ou même collective des citoyens regroupés ne porterait en aucun cas préjudice à ceux qui voudraient exploiter des systèmes, quitte à piller la planète et ne plus assurer l'avenir sanitaire des gens qui y vivent.
Malheureusement, ce qu'il y a au-dessus de tout ça, le premier problème et le premier critère qui fait, je vais dire l'unanimité, c'est très provocateur ce que je dis là, c'est l'économie. C'est-à-dire que le consommateur, à la fin, si on prend l'exemple de cette bouteille, va l'acheter. Si elle est biosourcée, elle risque de coûter plus cher tout de même. Et donc, on est devant un problème, c'est est-ce que le consommateur, même s'il sait qu'il va rendre service à la planète, il est prêt à la payer deux fois plus cher, trois fois plus cher? Quelle est la limite? Alors, il paraîtrait que c'est 10%. Effectivement, quand ça coûte 10% de plus, on est prêt à faire un geste. Mais au-dessus, c'est très difficile. Alors, le prix de vente, en général, des produits biosourcés, pour diverses raisons, il est plus élevé. Et c'est pour ça, et je rebondis sur ce qu'on a dit au début de l'émission, c'est qu'une régulation, éventuellement des subventions pour amorcer le système, hein, puisque si le système n'est pas amorcé, ça va coûter très cher au début, mais ça peut, avec la production de masse, les prix peuvent baisser. Je pense que vraiment la régulation, c'est le seul contrepoids à cette hégémonie de l'économie qui va faire que le procédé va être rentable, que les gens vont acheter le produit. Je crois que c'est un gros problème.
Alors, pour que ces investissements fonctionnent, enfin ceux qu'il faut rajouter pour que la planète devienne éventuellement vivable, il faut aussi que les gens soient persuadés de l'intérêt et donc aussi formés, informés. Hein. Qui peut le faire?
Oui, ça c'est aussi un point très important d'information de la population. Alors le mot peut être péjoratif, mais c'est tout un chacun. Tout le monde n'est pas chimiste et Dieu merci. Tout le monde n'est pas physicien et Dieu merci, etc. Je pense que là, justement, il faudrait qu'aussi la communauté scientifique change de manière de penser. Il faut absolument associer de manière très proche les sciences humaines et sociales, parce que c'est cloisonné. On appelle ça les sciences molles par opposition aux sciences dures ou aux sciences dites exactes. C'est un mot que je déteste, ce mot exact. Et on est encore dans cette histoire d'avoir tout cloisonné, et c'est le moment de rassembler les deux, justement, vers le bien-être du citoyen, et l'intégration de tous ces champs disciplinaires qui ont l'air complètement différents va apporter des choses nouvelles.
Et on est dans cette lueur d'espoir. Merci Franck Duménil de nous avoir apporté cet éclairage positif et cette réflexion en germe qui, j'espère, sera reprise par le grand public pour booster aussi les gens qui décident, qui ne sont pas forcément des économistes ou des industriels. Hein.
Je l'espère, et le citoyen peut décider des choses aussi de lui-même.
Merci beaucoup.